Les pieds sur terre, Sonia Krönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Ce sont trois récits de voyage aujourd'hui, des histoires où on part pour partir, trois rêves d'aller là-bas vivre ensemble ou tout seul. Des endroits où vous verrez des soleils mouillés, des ciels brouillés, des meubles luisants, polis par les ans, les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ambre. Il y aura des riches plafonds, des miroirs profonds, pas impossible qu'on voit sur des canaux dormir des vaisseaux dont l'humeur est vagabonde. Et puis, à la fin, des soleils couchants qui revêtent les champs, les canaux, la ville entière, d'hyacinthe et d'or. Et puis, tout au bout, le monde qui s'endormira dans une chaumière. C'est une invitation au voyage donc, vous l'avez deviné, à la douceur du départ, trois façons de vivre cette urgence de partir, d'aller vivre une vie de nomade, où il y a toujours quelque chose à découvrir, qui est derrière, plus loin. Ce sont les aventures de trois jeunes personnes, Faustine, John et Spartacus, racontées par Inès Leroux, tout de suite dans Les Pieds sur Terre. Notre vie est un voyage, dans l'hiver et dans la nuit, nous cherchons notre passage.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Faustine, j'ai 23 ans. Depuis toute petite, j'ai vraiment un rapport au départ, au voyage, à l'ailleurs, qui est... Ouais, c'est comme une attirance, quoi. J'ai une sorte d'élan vers l'ailleurs qui, depuis toute petite, me pousse, quoi. Je sais que quand j'avais 11 ans, je rêvais de prendre un bateau et de partir, quoi. Et en fait, ce qui me poussait à partir, c'était quelque chose de plus fort que moi. Déjà au lycée, je savais que j'avais très envie d'aventure, quoi. Donc moi, je rêvais que d'une chose, c'était prendre mon sac à dos et partir. Partir, je sais pas, je savais pas trop, soit en voyage, soit juste découvrir d'autres horizons. Donc là, j'en avais enfin l'opportunité d'aller étudier ailleurs. Je me suis dit, ça serait dommage de pas le faire, quoi. Ça serait dommage de rester dans mon petit nid douillet. J'ai toujours vécu dans la région parisienne, ce serait dommage de continuer à vivre ici et de pas essayer autre chose, quoi. Donc c'était à la fin de ma licence, c'était pour faire mon master à Foix, donc c'est dans le sud de la France, près de Toulouse. En fait, j'ai fait des études de géographie, j'avais envie d'étudier l'espace rural. Foix, c'est une ville de 10 000 habitants, et c'est dans une région très rurale. C'est au pied des Pyrénées ariégeoises. En fait, c'était assez rigolo parce que j'ai pris un train de nuit. Je sais pas, j'avais mon sac à dos et j'allais m'installer dans une nouvelle ville, quoi. Souvent, quand tu pars en vacances, mais là, je partais pour vivre ailleurs, quoi. Et j'ai pris ce train de nuit qui partait de la gare Austerlitz. Et j'étais hyper, hyper émue, quoi. C'est clair que j'allais pas réussir à dormir. Le petit train est arrivé dans la petite gare de Foix. Et face à moi, il y avait le château de Foix qui est sur une petite montagne. Et t'avais le grand soleil. Et puis t'avais les montagnes, quoi. Tout autour de Foix, je voyais les montagnes, quoi. Et je me suis dit, mais c'est fabuleux. Enfin, je m'attendais pas à ça. C'est sûr que c'est un peu difficile. Parce qu'en fait, finalement, tu brises le cercle intime, quoi, tout ce qui est familier. Et finalement, le fait de partir loin de ça, c'est vrai que c'était une rupture dans la bulle de l'enfance, quoi, je pense. Et parce que rien que, voilà, j'étais à 800 km de ma famille, quoi. Donc forcément, je la voyais beaucoup moins souvent. Ouais, c'est un étrange sentiment, en fait, que tu te retrouves, toi, tout seul, soudain, dans un lieu où tu connais personne et t'as tout à construire. Et tu peux compter que sur toi-même. D'un côté, c'est un peu inquiétant et c'est un peu dur aussi, parfois. En même temps, je trouve que c'est vital, quoi, d'avoir ce moment où tu construis les choses seul. Là, t'es dans un endroit qui est, je dirais, qui est blanc. Enfin, t'as tout à construire, quoi. Et du coup, ben voilà, tu te sens fier d'un certain point de vue parce que tu te sens indépendant, tu te sens autonome et tu te sens aussi, bah, tu commences à te sentir adulte, tout simplement. Au début, c'était dur. Au fur et à mesure, je me suis construit une nouvelle vie. Et au fait, au bout d'un an et demi, et même dès le début, je ressentais déjà cette envie en fait, d'un autre départ, un départ plus radical, le voyage. Quoi. J'avais envie de partir en voyage. Et finalement, c'est devenu très pressant au bout d'un moment. Et je suis partie du coup au bout de... Bah, à la fin de mes 2 ans à Foix. Je suis partie en voyage. Après, c'était pas non plus un voyage dingue, mais pour moi, symboliquement, j'avais décidé de faire un voyage où j'aurais vraiment zéro attache. Quoi. Et donc là, c'était vraiment partir sans aucune contrainte, c'est-à-dire sans obligation de retour, et rien derrière moi, c'est-à-dire plus de maison, et être vraiment une nomade, quoi. J'avais aussi envie de me prouver certaines choses, je pense. Me prouver ma force, me prouver mon courage, me prouver ma volonté, ma détermination. Voilà, j'avais envie de me lancer un défi, quoi, en fait. J'avais envie de me lancer un défi et d'aller jusqu'au bout, même si c'était pas facile. Donc le défi, c'était de traverser l'Europe en vélo. Et voilà, je l'ai fait. Et J'étais empli de ce qu'il me fallait, d'aventure et de défis pour pouvoir ensuite accepter les contraintes d'une vie plus de la vie en fait. Après moi je pense aussi que c'est pour sentir la vie quoi. Moi j'avais envie de sentir pour mon voyage j'avais vraiment envie de sentir la vie quoi qu'il y avait en moi, ça sentir mon existence quoi. Donc souffrir physiquement, être dans la nature, rouler sous la pluie, et puis avancer quoi. Parce qu'au fond la vie c'est ça, c'est avancer quoi. J'avais envie d'avancer, j'avais envie de me prouver que je pouvais continuer à avancer. Mais c'est ça en fait, c'est que avant de partir j'avais plus envie de rien faire. Et le fait d'avoir pendant 4 mois, j'ai physiquement avancé en vélo. Donc, chaque jour, j'ai fait des kilomètres. Dans ma tête, ça m'a permis de me dire que j'allais continuer à avancer, quoi. Ça a mis le moteur en marche.
Le plus grand départ que j'ai fait, c'était en novembre 2013. J'ai parti d'Angleterre en voyage. Notre but, c'était d'aller en Portugal. Donc j'ai quitté mon boulot et j'ai pris ma camionnette avec quelques outils, ma copine, mon chien et... On est parti pour quelques mois en descendant la France. Je sais pas pourquoi on a parti. C'est difficile à savoir. J'étais pas trop prêt de partir, mais ma copine elle a demandé d'aller. Moi j'ai pas vu trop de raison d'attendre. Donc. Moi, j'avais un peu marre de l'Angleterre, de le prix de la propriété en Angleterre. C'était surtout une frustration de l'argent. Moi, j'étais pas bien payé chez moi. Et le prix de juste pour louer une maison, pour avoir un chez moi, c'était impossible avec mon salaire. Moi, j'ai fait de l'ébéniste, j'étais en charpente. Et j'ai senti beaucoup de frustration parce que J'étais capable de faire un super belle maison, mais j'étais pas capable de même louer un truc pour moi. J'étais pas capable d'avoir un chez moi. J'étais toujours chez mes parents. Et on a vu que c'était possible de faire une vie dans les autres pays. On a dit pourquoi pas aller voir le monde, et en plus on peut peut-être trouver un endroit pour nous de construire notre vie. Finalement, on n'a pas arrivé à aller jusqu'à Portugal. On était bloqué par les Pyrénées. Ma relation, ça finit pas trop bien. Donc ma copine, elle est partie. Moi, j'ai resté en France. Et moi, j'ai senti beaucoup seul en étranger. J'ai parlé pas trop la langue. Donc j'ai passé pas mal de temps seul avec mon chien. Et c'est avec lui, j'ai senti beaucoup mieux. J'ai eu une occupation pour moi. J'avais toujours quelqu'un à... J'étais responsable, si tu veux. J'étais responsable pour quelqu'un d'autre, même si c'était juste un chien. Quand je suis arrivé dans la montagne, ça, c'était un endroit qui m'a beaucoup plu. C'était un paysage que j'ai même jamais vu avant. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien être dehors, qui aime la nature, qui aime marcher avec mon chien. Et je pense que j'ai bien aimé la liberté. Et le sentiment que les montagnes, c'était plus grand que moi. Que même si j'ai marché tous les jours, j'étais pas capable de traverser les montagnes. Et petit à petit, c'était comme si les raisons d'être là. J'ai compris pourquoi j'avais envie de rester en France. C'est parce que la vie était plus intéressante, c'était plus... gratifiante. J'ai appris quelques mots, j'ai appris quelques phrases. J'ai même rencontré une copine. C'est un peu fou les choses que j'ai faites dans ces 2 ans. J'ai trouvé du travail ici. J'ai vu maintenant que c'est vraiment possible de vivre en étranger. Finalement, ça, c'était le but de pourquoi j'ai parti d'Angleterre, de voir si c'était possible de vivre en étranger. Moi, je suis assez content, je pense, de mes départs. Ça, c'est le départ le plus grand, le plus qui m'a donné le plus de satisfaction et le plus de espoir que la vie va être ma vie. La vie peut être ce que tu fais, ce que tu envies. Tu es le conducteur, si tu veux.
France Culture, les pieds sur terre.
Je m'appelle Spartacus, j'ai 17 ans, je suis d'origine roumaine, tzigane, et je vis en France depuis presque 10 ans maintenant. J'ai réussi à avoir la nationalité française. Mon père et ma mère étaient venus en France déjà depuis, enfin en 2004, et c'est ma grand-mère qui nous gardait en fait. On est venus début 2007, quand il y a eu l'autorisation l'espace Schengen. C'était pour avoir un avenir meilleur en fait, parce qu'on a tous cette image du pays meilleur en fait que le nôtre. Donc on s'exile, on essaie de trouver des choses pour se dire que en fait on est mieux. Mais au final c'est pas vrai, parce que en France on a beaucoup souffert sur les bidonvilles avec la police et tout ça. Et je me rappelle des expulsions, et je me disais c'était encore pire, parce que chez nous, certes, on n'avait pas beaucoup d'argent, mais au moins on vivait bien avec les moyens du bord. Alors qu'ici, on a vraiment dû galérer plus qu'en Roumanie. Mais au final, ça va. Donc, je sais pas si mon père avait raison ou tort. Mon père, il a commencé à travailler en fait en Roumanie comme éboueur. Il ramassait les ordures sur le trottoir. Parce que vu qu'il n'est pas qualifié, en fait, c'était vraiment un emploi sans qualification, sans rien. Et il a commencé à faire ça parce que il n'y avait pas d'emploi, on va dire, pour lui. Et après, il est venu en France et il a commencé à faire la manche. À l'époque, il gagnait bien sa vie, il m'a dit. Parce que il n'y avait pas cette crise en Europe. Et les gens, ils avaient plus d'argent. Du coup, ils donnaient plus aux pauvres. Et même, des fois, il allait mendier devant la mosquée et tout. Il arrivait à gagner bien sa vie, il gagnait des 100 euros par jour. Enfin, en fait, avec ma mère et mon père, ils faisaient les deux la manche, ils arrivaient à 100 euros par jour. Pendant une semaine, pendant le ramadan, quoi. À la fin du ramadan. Mais c'est vraiment, enfin, à l'époque, 2004-2005, c'était vachement bien, c'est ce qu'il m'a dit. Et après, ça a commencé à se dégrader vers le 2009-2008, quand il y a eu la crise avec l'Espagne et tout ça, la Grèce. Et voilà, là, ça a commencé à s'empirer. Mais je parle plus des moments où j'ai commencé à voler aussi. Je voulais des autoradios, je voulais tout ce qu'il y avait dans la voiture. Je faisais quoi encore? Je voulais dans les autocars, tout la marchandise et tout ça. Et plus tard, j'ai commencé à voler des scooters. Jusqu'au jour où tu te rends compte que c'est mauvais ce que tu fais, et voilà. Mais bon, j'avais que 8 ans à l'époque. Hein. Je pouvais pas penser de la même manière qu'aujourd'hui. J'allais tout le temps au commissariat et ça, c'était vraiment n'importe quoi. Je kiffais les habits en fait. Par exemple, je gagnais 50 euros, je donnais 30 euros à mon père et je gardais 20 euros. J'allais sortir avec mes potes, prendre une boisson, prendre une glace. M'acheter un jean, un t-shirt que j'aime bien, voilà.
À 8 ans?
Ouais, à 8 ans. Et on habitait sur le bidonville, sur les quais de Seine, vers Saint-Ouen. C'était vraiment catastrophique. Parce que il n'y avait pas d'hygiène, il n'y avait pas de... je sais pas. Certes, c'était vachement bien parce qu'on se retrouvait en famille et tout ça. Mais on se faisait souvent insulter de gitans et de voleurs, de sales mendiants, de sales tout simplement, parce que bah, l'hygiène et tout ça, on pouvait pas se laver. Les gens, ils comprenaient pas ça. Pour eux, tout le monde doit accéder à une douche. Moi, à 8 ans, je pouvais pas aller à la douche toute seule, aux douches publiques. J'étais obligé d'être accompagné, donc mon père, il avait pas que ça à faire. Et sur le bidonville, c'était, comme j'ai dit, il y avait des inconvénients et des atouts. Les atouts, il y a la musique, danser, parler, ouais, dormir avec tes potes. Enfin, vraiment, il n'y avait pas de règles. Et j'ai bien aimé ça. On était vraiment hors la loi, en fait. Moi, j'aimais beaucoup aussi écouter les histoires des adultes, en fait, des vieux monsieur qui racontaient leur histoire, comment ils sont venus, tout ça, qu'est-ce qu'ils ont fait avant. Et surtout mon père qui me racontait beaucoup de proverbes et tout ça. J'aimais beaucoup. Par exemple, il m'a raconté un proverbe, il m'a dit c'est quoi, c'est faut être patient, la chance a du retard. Enfin, c'était que des trucs comme ça et je prenais vraiment sérieux ce qu'il me disait. Je crois que ça m'a fait avancer un peu. T'es obligé de rester sur le bidonville et de trimer en fait, de vraiment chercher le truc qui va nous faire décoller. Jusqu'au jour où on a rencontré Camille. Camille, elle avait 16 ans. J'étais devant le KFC, Place de la République.
À Saint-Denis.
À Saint-Denis, oui, bien sûr, c'est ma ville, de toute façon. Donc, on faisait la manche avec mon père et Camille vient nous voir et nous demande si... on voudrait bien faire des ateliers de cirque avec elle. Mon père, il préfère qu'on aille faire du cirque qu'on reste avec dans la rue en train de le voir mendier, de galérer toute la journée. Elle nous a dit oui. Et du coup, on commence à faire des activités avec elle. Elle commence à nous inscrire à l'école. Elle commence à vraiment... Enfin, en fait, on commence vraiment à s'épanouir dans un truc. On commence à prendre une place d'enfant.
Toi et ta petite sœur.
Ouais. Et du coup, Camille nous a proposé d'habiter chez elle et...
Avec tes parents?
Avec mes parents au départ. Au départ. Parce que sur le terrain, c'était pas vivable. Parce qu'on se faisait expulser tous les 4 matins et qu'on devait changer d'école. Et moi, j'avais peur aussi qu'un jour, j'aille à l'école et que je retrouve plus mes parents.
Et elle habitait toute seule?
Toute seule, ouais. Toute seule. Exactement. Avec le soutien de son parent. Elle a des parents, bien sûr. Mais elle a décidé de les quitter très tôt. C'est son choix. Elle a commencé à croquer la vie à pleines dents à partir de 16 ans. C'est vraiment un choix de vie, en fait. Et moi, je respecte. C'est une femme qui avait beaucoup de courage. Et qu'elle en a toujours, en plus. Camille, pour moi, c'est une personne qui nous a donné un coup de pouce. Qui nous a donné cet envol. Jour d'aujourd'hui, je me sens plutôt bien. Je suis plutôt... Un bon garçon, non, c'est vrai qu'il y a un parcours exemplaire par rapport à ma communauté. Moi, je savais même pas que ça existait, les Roms. Pour moi, on était tous comme les autres. Enfin, moi, en Roumanie, quand j'allais à l'école, je me demandais pas si j'étais Rom ou j'étais Roumain. C'est vraiment ici, en fait, on m'a dit t'es Rom. J'ai dit mais c'est quoi Rom? Et là, on a commencé à expliquer. C'est en France, vraiment, j'ai appris que c'est quoi la différence, en fait, entre Roumain et Rom. Avant, je savais pas. Et c'est vachement important parce que j'ai toujours envie de montrer que, en fait, qu'on soit Rom ou n'importe quel pays, on peut savoir nos droits, nos choix, peu importe là d'où tu viens. Attends, c'est quoi? C'est plus la guerre est immense, plus la médaille est grande. Voilà.
T'es toujours chez Camille aujourd'hui?
Ouais, entre autres parce que je vagabonde un peu. Je vais chez ma copine, je vais chez des potes. Enfin, je suis un peu un mec qui aime bien voyager. Donc, je viens ici par exemple, c'est pour chercher de l'emploi. Et d'ici 2-3 mois, je serai plus ici. Je serai chez quelqu'un d'autre. Enfin, voilà. Moi, j'ai toujours appris que le voyage, c'est bien, ça ouvre des portes, des horizons. Plus tard, je voudrais faire capitaine marin, en fait, sur les bateaux. Donc, je vais commencer à faire une formation, si tout va bien, au mois de janvier. C'est le Père Jaouen, en fait. C'est une école pour devenir un marin, pour les jeunes. Faut que j'arrive à trouver les financements avec Pôle emploi, mission locale et tout ça. J'espère que ça va le faire.
Et pourquoi tu veux faire ça?
Parce que mon père a toujours voulu que je sois capitaine. C'est vrai, depuis que j'étais petit, en fait. Mon père, il m'a toujours dit, tu pourras faire capitaine de bateau, comme ça tu me ramèneras sur le bateau. Ça m'a donné envie. Ce métier, pour moi, c'est vraiment, t'es tout le temps en activité, en fait. Quand tu te reposes, au moins tu sens que tu te reposes pour quelque chose, en fait. Enfin, en fait, tu pourrais travailler dans une industrie. Après, quand tu te reposes, t'as pas le même plaisir. Parce que sur la mer, tu travailles, mais tu sais que c'est ce que tu fais, c'est, on va dire, avec la nature, en fait. De se dire, on a une chance de se perdre dans la mer, mais on a aussi une chance d'arriver au bon moment.
Et alors, tu t'imagines partir 3 mois en mer?
3 mois en mer, sans savoir où je vais, et voilà. Parce que, certes, tu pars de 3 mois, 4 mois, mais après, quand tu vas revenir, t'arrives chez toi avec des bonnes histoires à raconter. Parce que sinon, tu te fais chier. Regarde, tous les soirs, tu vas travailler chez un magasin, là, Célio, je sais pas quoi, tous les jours. Tu vas raconter quoi? J'ai eu un client, il était barbu. J'ai eu un client, il avait pas de barbe. J'ai eu un client, il avait la vessie. J'ai eu un client... Non! c'est mieux de partir pour un long terme, genre un voyage et tout. Tu peux dire, ah ouais, j'ai mangé ça, j'ai rencontré telle personne, ils font ça comme ça chez eux. Ouais, moi, tu vois, ça ouvre, je sais pas, ça ouvre une image super grande dans ta tête.
Gelen gelen uğ oynadım ben sen. Malay dilen bahtalarım sen.
C'était une invitation au voyage d'Inès Leroux, réalisée par Marie Placet. Merci à Faustine, à John et à Spartacus, ainsi qu'à Anne-Sophie Lepicard. Ah.